Bonsoir, premier lundi du mois, donc l'émission du syndicat d'industrie informatique, membre de la CNTSO. L'émission s'appelle Les débogueurs du système, système capitaliste évidemment. Ce soir à la technique, Colin, et derrière les micros, Guillaume, Clément, Colin s'il a envie d'intervenir, et moi-même Bernard.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler si vous avez envie de parler, d'intervenir pendant l'émission. Vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Alors ce soir, on va vous parler du cloud. C'est quelque chose dont vous avez beaucoup entendu parler et qui vous paraît peut-être un peu fumeux, pour pas dire nuageux. Hein, mais bon, c'est normal. Donc on va pas faire de la technique dessus. On va simplement regarder un peu les implications que ça donne au niveau des données personnelles, donc le côté personnel, donc la sécurité des données personnelles. Qu'est-ce que les entreprises peuvent en faire? Où est-ce qu'elles vont gagner de l'argent sur votre dos? N'oubliez pas, si c'est gratuit, c'est que le client, c'est vous. Et on va voir ça aussi du côté des entreprises, donc au niveau confidentialité, sécurité, et puis surtout le côté emploi, etc. Donc on est parti pour un petit moment ensemble.
Eh bien on y va. Alors peut-être qu'on va commencer, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le cloud, ou la dématérialisation des données. C'est vrai que c'est plus facile en anglais, c'est peut-être pour ça qu'on le dit souvent en anglais. Donc on va essayer de définir un petit peu ce que c'est pour que déjà tout le monde saisisse bien le concept. Donc ce qu'on appelle le cloud, c'est le nuage en anglais. D'ailleurs je ne sais pas pourquoi on appelle ça le cloud.
Moi je sais pourquoi, c'est que sur les dessins réseau, on dessine internet avec un gros nuage et puis des petites flèches qui vont des ordinateurs dans le nuage, etc. C'est pour ça qu'on a appelé ça le nuage, le cloud.
Ils sont fous ces informaticiens. Ouais. Donc le cloud... Le nuage, alors en fait, on parle de dématérialisation de données quand on parle de cloud. C'est de manière pratique, par exemple, le fait de ne pas stocker ses informations personnelles sur son propre ordinateur ou son propre téléphone, mais de les stocker ailleurs. C'est peut-être, s'il y en a qui connaissent Google Doc, avant, à l'ancienne, pour les vieux de la vieille, on avait un bon vieux PC chez soi avec un disque dur et on stockait ses documents Word, ses images, etc. sur son PC. Et maintenant, on a des systèmes qui permettent, par exemple, comme Google Doc, de stocker des données, alors non pas chez soi, sur son PC, mais sur ce qu'on appelle un serveur, c'est-à-dire en fait tout simplement une machine, donc un ordinateur, qui est ailleurs, qui peut être à 10 km comme à 10 000 km, peu importe, mais en tout cas qui n'est pas chez nous. Alors, c'est ce qui permet, par exemple, si on utilise donc toujours Google Doc, de se connecter à Paris, à Lille, à Strasbourg, à Hong Kong, tout ce qu'on veut, et accéder à ces données. On a en général un login, un mot de passe, un peu comme un compte mail. On se connecte et on peut avoir accès aux données qu'on a enregistrées. Ça peut être des données texte, des images, des données, tout ce qu'on veut, des vidéos, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Donc voilà, en tout cas, ça permet de ne pas stocker sur son propre ordinateur, sur sa propre machine, les données, mais de les stocker sur une autre machine et d'y accéder via Internet en général. Quoique ça marche peut-être sur les téléphones portables.
Alors en plus, il y a un petit détail, il y a beaucoup d'entre vous qui ont des sociétés qui ont un site internet qui est hébergé, alors je vais donner des noms mais ça va vous donner une idée, chez One on One ou OVH ou Gandhi, et là vous avez un ordinateur bien précis dans une salle où il y a les données de votre entreprise, c'est-à-dire que si cet ordinateur là tombe en panne, c'est fichu, c'est mal parti pour votre entreprise pour le moment. Le cloud c'est un peu plus vicieux, parce qu'en fait vous savez pas vraiment sur quel ordinateur les données sont. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bout de votre fichier traitement de texte sur une machine, un bout de votre tableur sur une autre machine, etc. Vous ne savez pas où c'est exactement. C'est pour ça que c'est vraiment le nuage, quoi. C'est la différence entre le cloud et puis le serveur dédié de l'entreprise qui est dans la salle 32 chez l'hébergeur.
Est-ce que tu sais au passage pourquoi d'ailleurs ça se passe comme ça? Parce que c'est vrai que quand on héberge un site internet, donc c'est ce dont tu parlais, on l'héberge effectivement donc sur un serveur qui est à un endroit et tout le site internet en fait est sur ce disque dur, à un seul endroit. Pourquoi il y aurait cet éclatement
Ça, c'est une technique. Les premiers à utiliser cette technique-là, c'était Google. Alors Google, ils ont ce qu'on appelle en américain des fermes d'ordinateurs, c'est-à-dire que ce sont des hangars qui font des surfaces monumentales et dans lesquelles il y a 10 000 ou 20 000 ordinateurs. Et les programmes sont faits de telle sorte que les données sont copiées sur 7 ou 8 ordinateurs différents. Et quand il y en a un qui tombe en panne, on ne va même pas le débrancher. On s'en occupe plus. Non, c'est authentique. Hein. C'est comme ça que ça marche. Quand un ordinateur de la ferme, donc où il y a 10 000 ou 20 000 petits boîtiers, il tombe en panne, et ben, il est déconnecté pratiquement automatiquement du réseau. Et puis, on s'embête même pas à envoyer quelqu'un pour le sortir et le réparer.
Donc ça ne change rien parce que les données sont dupliquées sur les
autres. Les données sont dupliquées en 36 morceaux sur les autres, etc. Et bon, après, c'est tout l'art, c'est de savoir gérer tout ça, le mettre à jour, etc. Mais ce sont des technologies qui marchent bien et qui ont au moins une quinzaine d'années.
D'accord. Enfin, le jour où il y a une panne d'électricité dans la ferme, il y en a qui doivent s'arracher.
Alors justement, les dernières fermes de Google ont été installées aux États-Unis juste à côté de barrages hydroélectriques.
Ah oui, tu m'étonnes, dans ce cas-là.
En plus, ça leur permet de payer l'électricité moins cher.
Oui, moins cher. Et puis surtout que tous les clients, t'imagines si ton serveur il tombe ou n'importe quoi, ils doivent être sacrément mécontents, les clients. Donc, on a dégrossi un petit peu ce que la notion de cloud, donc de dématérialisation de données. On va essayer de voir un petit peu, alors peut-être déjà pourquoi est-ce que c'est fait, quel aspect, entre guillemets, pratique les entreprises principalement, mais les particuliers aussi y trouvent, et ensuite les aspects aussi pervers qui peut y avoir à ce genre de système. Alors déjà, pourquoi ça a été mis en place, les dématérialisations de données la thune le nerf de la guerre. Ouais, l'argent, bah, un côté pratique quand même aussi pour les professionnels, par exemple, je pense aux gens qui font tout le temps des réunions à gauche à droite, qui se connectent de n'importe où maintenant, que ce soit avec leur smartphone ou leur poste un peu partout. Finalement, on a accès à ces données où qu'on soit en déplacement, qu'on soit chez soi aussi. Alors on verra après, j'imagine, l'effet pervers de ça.
Ça, c'est le côté agréable, c'est qu'effectivement, on a accès à ces données où qu'on soit dans le monde, à condition d'avoir accès à Internet. Mmh. Il est évident que si on est dans certaines zones, dans les Landes girondines, par exemple, ça devient un peu plus sportif avec le téléphone portable. Mais globalement,
très belle région, cela dit.
C'est une très belle région, oui. Mais bon, globalement, on a effectivement accès aux données à partir de pas mal d'endroits. Et puis l'autre avantage, alors ça c'est pour tout le monde, mais au niveau entreprise, il faut voir quand même que ça permet de diminuer le personnel affecté, ce genre de choses. C'est, disons, il y a beaucoup de PME qui travaillent avec un informaticien, mais qui se limitent au niveau charge de travail, etc. Donc ça peut être intéressant pour ces PME de se débarrasser, entre guillemets, d'un informaticien et de sous-traiter ça à l'extérieur. Je ne parle pas des grosses entreprises comme les banques, etc., qui sont toutes contentes de pouvoir payer des gens au barème de la Syntec au lieu de les payer au barème de la banque. Hein, c'est-à-dire que ça permet aussi de payer les gens moins cher parce que les conventions collectives ne sont pas les mêmes quand ce n'est pas de la délocalisation franche et massive.
En Tunisie ou ailleurs.
Donc les deux argumentaires pour vendre ça aux entreprises, c'est laissez-nous faire, on est des professionnels, vos données sont en sécurité, et même si les ordinateurs se plantent, vous les aurez et ça vous coûtera moins cher.
C'est un peu comme toute sous-traitance, en quelque sorte, ça permet de se débarrasser de cette gestion-là.
Je ne vais pas parler de sous-traitance, là, je vais parler d'externalisation. La sous-traitance, c'est quand on fait appel à quelque chose qui n'est pas notre cœur de métier et qui n'est pas une fonction transverse. Là, c'est vraiment, on sort quelque chose qui traditionnellement est dans l'entreprise et on l'amène ailleurs.
Chez un prestataire extérieur, voilà. Qui s'en occupe. Mais donc pour les professionnels, on a aussi souvent, alors moi je pense souvent à tout ce qui est cloud dans, comment dire, comme un symptôme quelque part de notre société actuelle, c'est-à-dire qu'on veut toujours être connecté partout. Je vois ça, je vois toujours les gens dans le métro le matin avec leur smartphone qui consultent leurs emails ou qui regardent des vidéos. Il y a un peu finalement cette même idée dans le cloud, c'est-à-dire on peut avoir accès partout où qu'on soit, que ce soit dans les transports, au boulot, chez soi, n'importe où, en week-end, à ces informations, qu'on soit chez des amis, etc. Donc il y a le côté mobilité qui correspond, je crois, bien à notre époque, les gens bougent tout le temps, ils vont loin, etc. Et ils veulent avoir accès à leurs données, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Mais du coup, effet pervers, enfin, me semble-t-il, ça c'est mon avis, on a toujours ce fil à la patte.
C'est le côté invasif de la chose. Moi, j'ai commencé à travailler il y a quelques années. Quand on partait chez un client en province, ben, pendant le temps du voyage, on était à peu près tranquille. De toute manière, on voyageait en dehors des heures de travail et c'était pas payé. Maintenant, pardon, on voyage toujours en dehors des heures de travail, mais on travaille et c'est toujours pas payé.
Ouais, mais c'est,
donc,
c'est
il y a le côté invasif, je dirais, qui fait que la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée commence à devenir de plus en plus poreuse. Et
mais ça, c'est pas lié au cloud, quoi. Je veux dire, si ton entreprise avait ces données,
ça facilite.
Ouais, mais si ton entreprise a ces données sur un serveur chez elle, tu aurais accès aussi à distance.
Voilà. Mais ça facilite quand même parce que là, c'est vraiment tout. Bon, sur mon entreprise, je ne peux pas me connecter avec mon téléphone portable parce que je n'ai pas tous les mots de passe, je n'ai pas toutes les fonctionnalités.
Moi, c'est pareil,
ouais. Voilà. Mais oui. Si on était sur le cloud, oui, j'aurais accès.
C'est lié au phénomène d'Internet en général, quelque part. C'est ce que tu veux dire. Je pense que c'est le fait
qu'on puisse
avoir accès à distance.
C'est plutôt lié à la connexion permanente que qu'est-ce qu'il y a au bout de la connexion, quoi.
Voilà, oui.
Oui, ça, c'est la problématique de... Enfin, la problématique, oui, une des problématiques d'Internet qui fait que, avant, effectivement, comme tu disais, à 18h, on quitte le boulot, on est chez soi, bon bah voilà, on est relié à rien, on fait sa vie, alors que maintenant, bah, on a son téléphone, on a son ordinateur chez soi, et puis on peut être connecté à l'entreprise et récupérer les données, et donc travailler sur des heures qui sont payées ou pas, suivant les cas, mais plutôt pas en général.
Généralement, non, oui.
J'ai plutôt du bénévolat que. Autre chose.
Il faut quand même s'impliquer un petit peu dans l'entreprise, sois sérieux.
Ah bah, faut faire l'effort, hein, sinon on se fait délocaliser en Chine, c'est normal. Mais bon, oui, je pense vraiment qu'il y a cette problématique qui est hyper importante dans la dématérialisation, en tout cas dans l'accès à distance des données.
Ouais, le mot dématérialisation, c'est vraiment un mauvais mot, hein, parce que c'est juste de l'accès à distance à un matériel qui n'est pas chez toi, mais qui est quelque part de toute façon.
C'est-à-dire que la dématérialisation, ça a un autre sens. Hein. Quand on parle de dématérialisation, on pense surtout aux documents comme les relevés bancaires ou les choses comme ça.
Voilà.
Voilà. Donc là, c'est encore un autre domaine, mais c'est pareil. Ce sont des choses qu'on essaye de faire à fond parce qu'au final, c'est la technique, la technologie qui permet de supprimer des emplois, de supprimer des postes. C'est au lieu que la technologie serve à faciliter la vie des gens, en fait, ça leur pourrit parce qu'on supprime des postes, soi-disant que c'était des postes ou des jobs pas très intéressants, mais il y a des moments où je me dis qu'on préférerait peut-être avoir un boulot pas très intéressant qu'à ne pas en avoir du tout. Mais bon.
Bah, c'est le fil conducteur de toutes les émissions qu'on fait, hein, globalement. C'est un argument qu'on ressort
régulièrement.
Ouais.
Ouais, donc bon, comme on voit, le cloud, c'est pas forcément. Enfin, le cloud. Dématérialisation plutôt, effectivement, accès à distance. D'informations, parce que tu as raison de le préciser, on parle toujours de virtualisation ou de dématérialisation, mais en fait ça n'a pas vraiment
de
sens.
En fait, c'est pas vraiment clair.
Les choses disparaissent pas.
Est-ce qu'il y a plus ou moins de matériel? J'ai pas l'impression.
Non, et puis comme on l'a expliqué au début, de toute façon, une donnée, il faut qu'elle soit sauvegardée, enregistrée sur un matériel, enfin quelque chose de physique. Donc c'est vrai que même si on se dit, tiens, j'accède à Internet depuis mon poste et tous mes emails, par exemple, admettons, sont stockés chez Hotmail ou Gmail ou Free ou ce que vous voulez, en fait, ils sont pas stockés nulle part, ils sont pas dans la stratosphère, ils sont forcément sur un ordinateur, une machine qui est quelque part, alors qui est pas chez nous, mais qui va être, comme je disais tout à l'heure, à 10 bornes ou à 10 000 bornes de chez nous. Donc, il y a aussi ce côté, je pense à ça pour le côté écologique. Il y a beaucoup de boîtes qui se vendent, ouais, la dématérialisation, la virtualisation, ça va résoudre la crise écologique, etc. Mais non, puisque de toute façon, il faudra toujours fabriquer des ordinateurs avec des composants qui vont générer des métaux lourds, des pollutions, etc.
Ouais, là-dessus, c'est vraiment pas clair. Est-ce que la société en gros numérique, c'est plus écologique ou pas? C'est pas du tout évident, quoi. C'est vrai que la consommation d'électricité, par exemple, il y a une part importante qui est consommée par ces fermes de serveurs. Donc ça va être encore qu'à l'échelle actuelle que quelques pourcentages, mais c'est quelque chose qui... Quelques pourcents, pardon, mais qui augmente régulièrement. Donc... Se prononcer définitivement sur le coût écologique, c'est pas du tout évident.
Non, c'est pas évident, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est neutre ou nul. Il y a, Il y a forcément un impact à un moment donné, ne serait-ce que le fait de produire des ordinateurs et de l'électricité pour les alimenter. Je sais plus, je crois que c'est Facebook, je crois qu'il... Alors je suis peut-être pas très à jour, c'était peut-être il y a un an ou deux déjà, mais je crois qu'ils avaient 20 000 serveurs ou quelque chose comme ça dans le monde entier. C'était 20 000 disques, 20 000 machines qui tournaient juste pour héberger tous les crétins qui postent tous les jours ce qu'ils ont mangé à midi.
Ils sont pas crétins, ils ont des centres d'intérêt différents.
Oui, oui, pardon, c'est vrai, je suis assez intolérant.
On peut être anard et crétin, hein, t'en as un en face de toi.
Ah. Toutes les personnes qui ont des sensibilités différentes et qui souhaitent poster le menu de leur repas journalier. Excusez-moi, je suis affreusement intolérant, c'est insupportable de voir ça. Enfin bon, voilà, je faisais une petite parenthèse écolo-décroissant, excusez-moi.
Non, non, mais c'est certain que le coût écologique des ordinateurs est non négligeable. Je crois qu'actuellement, on considère qu'en gros, 50% de l'électricité qu'on met dans un ordinateur part en chaleur.
Ouais, en plus,
donc, bon, il y a un coût qui est loin d'être négligeable. Et le coût du recyclage, entre guillemets, du matériel informatique aussi, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Chine ou en Inde, c'est assez abominable. Donc dire que l'informatique en elle-même est écologique, c'est un peu abusif.
C'est même carrément abusif. Tu vois, en général, d'ailleurs, en niveau recyclage, on s'embête pas bien. Chez nous, en Occident, on envoie tout ça, alors ça dépend des endroits, mais en général, c'est sur la côte ouest africaine, au Ghana, par exemple,
ouais, maintenant,
si je me souviens bien.
Entre autres.
Entre autres, oui, bon, on n'est pas restrictif, hein, on n'est pas sectaire. Entre autres, au Ghana, et bon, voilà, les vieilles machines ou le vieil électroménager s'est jeté sur les plages du Ghana, et puis bon, bah, ma foi, ils se débrouillent avec la pollution de leur sol. Quoi.
Ouais. On en a déjà parlé dans les émissions précédentes, si vous voulez les réécouter, si vous êtes fan, sur l'obsolescence programmée, par exemple.
Exact.
Bon, et bien, écoutez, on vous a présenté un petit peu le cloud, donc on va vous laisser... le temps d'une petite pause de musique, interrogation écrite après, et puis on vous parlera de la suite. Et puis en même temps, comme vous a dit Clément, vous pourrez aller fouiller sur le site de Radio Libertaire pour retrouver nos émissions ou sur le site du syndicat.
Ouais.
Un bon vieux petit concept punk rock t'ferait agir à merveille. Je me pointe devant l'entrée de la salle, ce soir ça va être la fête. À ma grande surprise, y'a que dalle, un rat, pas une crête, wow. J'ai dû me gourer quelque part quand un pote pointe et me dit: pour le concert, rien comme un lézard, le rock est interdit. Par la banane du grand Lucien, c'est que ça chie dans la colle. On va tous crever comme des chiens s'il y a plus de rock'n'roll. Quand ça fusionne dans tous les sens, quand ça se coule les têtes, quand ça pogote jusqu'à la transe, quand on s'est honnête, si le rock'n'roll est mort, alors vive le rock'n'roll. C'est foutu rabat-joie. Pour obéir au président, on fait voter la loi. Tous les concerts sont prohibés, les gens s'y amusent trop. Les musiciens incarcérés s'ils trouvent pas de vrai boulot, wow, wow. Plus le temps que ça nous pendait au nez que la chasse aux sorcières. Et s'il y a un monde orchestré qui voudrait nous faire taire, ils auront beau tout essayer, le rock est libre comme l'air. Maintenant la galère continue, mais mais ça change pas grand chose. On résiste, on lâche situationniste pour la cause. Soir, y'a concert clandestin, on se retrouve au tas de sable. Si t'as envie de t'éclater, viens, la vieillerie est potable. Le mot de passe est mon condé. Et on refera le monde sur des rives comme des mitraillettes contre la mer des mondes.
Voilà, de retour, les débogueurs du système, le syndicat de l'industrie informatique, avec Colin la technique, Guillaume, Clément et Bernard derrière les micros.
Juste, je vais préciser quand même, on vient d'écouter David Vincent, c'était « Si le rock'n'roll est mort, alors ».
Eh bien, merci Colin, c'était une excellente intervention. Donc, on va repartir sur le cloud, donc on vous parlait, on tient quand même à préciser quelque chose, le cloud en lui-même n'est pas fondamentalement mauvais, c'est pas une mauvaise solution, au contraire, il y a des bonnes choses techniquement. Le seul problème, c'est qu'est-ce que les gens en font, quelle est l'utilisation qu'ils en font. Donc on va aborder un peu plus la question de comment, à quel niveau les gens font de l'argent, les gens qui louent des services cloud, et puis après la prochaine pause, on regardera un peu les problèmes de confidentialité et de données personnelles.
Ouais, donc le premier point que tu évoques, c'est effectivement ceux qui louent, c'est-à-dire les entreprises qui actuellement...
Voilà, quel est le modèle économique, comme on dit.
Qu'est-ce qui rapporte?
Qu'est-ce qui rapporte de l'argent?
Où se fait la thune? Bah, en gros, corrigez-moi si je me trompe, un loueur de cloud, c'est en gros une entreprise qui a des machines, donc des ordinateurs, dans une salle. On parlait tout à l'heure des fermes d'ordinateurs, fermes de serveurs. En gros, c'est ça, une entreprise qui... entre guillemets, dématérialise, elle a une salle remplie d'ordinateurs et elle propose à des clients de venir stocker leurs données sur ces machines, plutôt que les clients les stockent à la maison, à l'ancienne, sur ses propres machines. Et pour ça, elle se fait rémunérer. Donc, une facture mensuelle, c'est tout bête, après, ça coûte tant pour tant d'espace occupé sur les machines.
C'est à l'espace ou à la bande passante que tu...
Alors, bonne question, ouais. Effectivement, je ne sais pas. Alors, je pense qu'il y a quand même la notion d'espace qui
joue. Tu dois jouer, oui.
Effectivement, la notion de bande passante doit...
Alors, je vais donner un élément de réponse, parce que mon entreprise a commencé à travailler avec, on les a nommés tout à l'heure, Google Apps. Donc, comme c'est une PME, on avait 10 comptes au début, et il y a 4-5 ans, c'était gratuit. Ça n'est plus gratuit pour les 10 comptes. Donc, on paye un abonnement par mois à la boîte mail... Et par contre, pour les stockages, j'ai pas les chiffres, j'ai pas le tarif. Mais par exemple, là, sur Google Apps, c'est tant par... Enfin, il y a un paiement mensuel pour 10 boîtes mail. Et après, pour chaque boîte mail supplémentaire, on paye un petit quelque chose par mois. Et c'est ça toute la beauté de la chose. C'est-à-dire qu'avant, on aurait eu, par exemple... Allez, je vais dire des bêtises, on aurait eu Microsoft avec un ordinateur, avec Office et tout ça, on aurait acheté une fois pour toutes, tandis que là, on paye tous les mois, on loue tous les mois. Donc même si on n'achète pas la dernière version, bah, tous les mois, il y a quelque chose, et c'est là pour ça que tout à l'heure, je parlais de modèle économique, donc on a quitté le modèle « je vends un logiciel ou le droit d'utiliser un logiciel et j'attends que les gens veuillent bien acheter la nouvelle version ». Là, on fait raquer tous les mois.
Ouais, c'est le principe de location. Je sais pas si tout le monde a bien compris. Enfin, ça me semble clair. Hein, mais c'est... En gros, effectivement, au lieu d'acheter un ordinateur, mettons, je dis n'importe quoi, 100 euros, et on l'a, bon, à vie peut-être pas parce qu'au bout d'un moment il devient obsolète, mais on l'a X temps. Là, on paye, je sais pas, on va dire n'importe quoi encore, 15-20 euros par mois, 30 euros, ce qui s'y revient moins cher. Mais si on reporte sur l'année, sur 2 ans, sur 3 ans, le temps qu'aurait duré un ordinateur, finalement, le loueur s'y retrouve. Vraiment, puisque lui, il va refacturer tous les mois le droit de poser des données ou d'utiliser des logiciels ou des programmes sur ces machines, quoi.
C'est ça.
C'est ça, donc c'est là qu'ils s'y retrouvent.
Donc on est dans une facturation récurrente.
Ouais. Plutôt qu'un paiement à un moment donné, à un moment T, et après l'entreprise serait tranquille. L'entreprise ou le particulier d'ailleurs.
C'est le grand problème des éditeurs de logiciels, hein, c'est de te forcer à acheter la nouvelle version, quoi. Et là, c'est une réponse extrême à ce problème, quoi.
Voilà, c'est exactement ça. Bah, c'est toujours comme ça. Quand on vend du logiciel ou de la prestation de service, la grosse marge, on l'a fait sur les contrats de maintenance, hein, ou sur les mises à jour des nouvelles versions. Bon, ben là, ils ont résolu le problème. C'est mise à jour permanente, donc on paye en permanence.
Ouais, ça. Bah, ça, je fais un parallèle avec les jeux vidéo, par exemple. Je sais qu'il y a pas mal d'années, dans l'ancien temps, des jeux vidéo. Bon, on avait la console de jeu ou l'ordinateur, selon les cas, et puis on achetait son jeu. C'est-à-dire, c'était soit un CD, soit une cassette Game Boy, Nintendo, tout ce que vous voulez, sans faire de pub. Et voilà, on avait son jeu. On pouvait le vendre d'occasion, on pouvait le prêter à un copain, on pouvait le garder le temps qu'on voulait. Et aujourd'hui, il se développe de plus en plus tout ce qui est, pareil, jeu, entre guillemets, dématérialisé, même si c'est pas réellement dématérialisé, mais en tout cas, le jeu, on le possède plus vraiment sous forme physique à la maison, on l'utilise, mais il est stocké chez l'éditeur du jeu, par exemple. On avait posté un article sur Diablo 3 l'année dernière, au moment où il était sorti, par exemple, mais il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que Blizzard, avec tout ce qui est World of Warcraft, etc., qui a marché et qui marche encore très très fort, se sont beaucoup spécialisés là-dedans, c'est-à-dire que maintenant, pour utiliser un jeu Blizzard, il faut avoir créé un compte Internet, sur leur interface qui s'appelle Battle.net, et on est obligé d'être connecté en permanence à Internet, même pour faire des jeux qui ne requièrent pas forcément Internet d'ailleurs, le cas de Diablo 3 par exemple, et pour des jeux qui requièrent Internet, de toute façon, quel que soit le cas, maintenant tout est installé, enfin tout est connecté en tout cas, il y a une partie du jeu qui est sur l'ordinateur qu'on utilise, mais tout est connecté forcément à leur interface à eux. Et c'est ce qui leur a permis notamment de développer tout ce qui était abonnement. Donc World of Warcraft, typiquement, vous achetez le jeu, donc ça comme à l'ancienne, avec des CD, vous installez sur votre machine, et en plus, tous les mois, vous payez. Vous payez l'utilisation des serveurs, etc., de la bande passante, et finalement, l'éditeur se fait beaucoup plus d'argent sur ses abonnements que sur l'achat des CD et du manuel du jeu d'origine.
Et là-dessus, il y a un deuxième point, c'est que ça facilite le contrôle des licences, en fait. Quand tu utilises, tu as besoin d'un accès Internet tout le temps pour jouer, ça permet à l'éditeur qui est à l'autre bout de la chaîne, quoi, sur son serveur, de vérifier que tu as la version correcte du jeu et qu'elle n'est pas piratée. C'est aussi une des raisons pour laquelle ils sont passés sur ce modèle, quoi.
Bah, c'est vrai que puis leur argument à eux, c'est de dire, comme ça, on lutte contre les méchants pirates qui nous volent les jeux et qui nous payent pas pour les utiliser. Bon. Moi, j'ai tendance à dire que des entreprises comme Blizzard, mais comme beaucoup d'autres, hein, comme Sega ou... Enfin, Sega, bon, ils sont peut-être pas au top de leur forme aujourd'hui, mais c'est un mauvais exemple. Mais comment ils s'appellent, Sony ou Nintendo, ils ont fait de l'argent pendant des années et des années, ils se sont maintenus. Et oui, il y avait en marge des gens qui pirataient les jeux et qui les payaient pas. Oui... pas bien, machin, tout ce qu'on veut, mais bon, ça n'a pas ruiné le système économique des éditeurs, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des logiciels. Après, c'est beaucoup d'excuses aussi pour dire « Ah oui, mais on n'est pas rémunéré, donc on va mettre tous les verrous qu'on peut pour obliger les gens à... pour s'assurer que les gens, comme tu dis, utilisent bien les licences autorisées, bien réglo. »
Oui, et qu'ils ne puissent pas juste dupliquer le jeu sur plusieurs machines et jouer peinard... dans leur coin en réseau local, quoi.
Ce qu'on a tous fait dans les années 90, tranquillement. Et mais finalement, comme des livres. Finalement, un livre, tu le lis, tu le prêtes à un copain, il te le repasse. On a tous fait ça et on fait tous ça encore. Je crois que ça choque personne fondamentalement, l'idée de prêter un objet. Enfin, je dis un livre, ça pourrait être, je sais pas, hein, le pressoir à légumes, je sais pas, n'importe quoi. On peut, ou le petit pot de sel à son voisin. Après, moi, je me dis toujours ça. Il y a un moment donné, il y a quand même un mec qui va toquer à ma porte pour vérifier que j'ai pas prêté mon petit pot de sel à mon voisin et qui va me coller une amende derrière. Donc, au bout d'un moment, bon, voilà, ce côté flicage permanent dans le seul but de faire de l'argent m'insupporte un petit peu, quoi. Et assez symptomatique, je crois, du système économique dans lequel on vit.
En plus, il y a quand même un problème, c'est ce qui s'est passé par exemple pour les gens qui étaient sur Google Apps, les PME qui étaient sur Google Apps, d'un seul coup, bon, je crois qu'ils ont, ils l'ont pas imposé le paiement à ceux qui étaient déjà inscrits, mais la règle du jeu change, c'est-à-dire que au bout d'un moment, on a pris, on est rentré dans le système, on a les données sur les serveurs de la société parce que c'est pas cher, parce que ceci, parce que cela, et puis pof, d'un seul coup, la règle du jeu change, et puis on se retrouve, on n'a pas le choix, on est obligé de rester parce qu'on est pieds et poings liés, ou alors ça cause des frais assez monumentaux pour faire migrer les applications, les emmener sur autre chose.
Oui, et puis toi, de toute façon, ça fait X mois ou années que tu as installé ton système, que tu as des méthodes de travail sur tel outil, donc évidemment, c'est très lourd de
tu as tout ton changer. Historique de tous les rendez-vous de l'entreprise, de la PME qui sont stockés sur le serveur dans le cloud, et puis tu es obligé de continuer, quoi.
Non, mais tu pourrais les récupérer, ces données.
Alors, les formats sont pas toujours franchement compatibles. Mais effectivement, on pourrait imaginer de récupérer les données, sauf que ça prend du temps, de l'énergie, et puis comme dit Guillaume, il faut changer les habitudes des gens, quoi. Il faut les replacer.
Si t'as formé, 10 ou 15 ou 30 personnes qui sont pas forcément des bêtes en informatique, qui s'y connaissent pas spécialement, leur dire on va changer la façon de faire, on va utiliser des nouveaux outils, ça peut être un peu la panique.
Ouais, bien sûr, mais j'imagine que quand tu mets ta boîte sous Google Mail par exemple, correct, tu vas lire le contrat et tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de garantie sur par exemple le maintien du service et compagnie.
Les gens ne lisent pas les contrats, c'est la beauté de la chose. Et en plus, dans les contrats, il y a toujours le petit truc dans un coin qui dit que la société s'autorise tous les changements possibles et imaginables.
C'est quand même la responsabilité de l'entreprise qui fait ce choix technique.
Ah oui, oui.
Elle veut dire, elle n'est pas. Il faut qu'elle s'y attende, quoi. Faut pas être naïf.
Oui, donc, après, c'est sûr que bon.
Et quelque part, quand on parle d'entreprise, je ne parle pas d'un particulier qui peut se faire pigeonner à tout bout de champ. Une entreprise est censée être responsable de ses choix économiques, quoi. Tu vois ?
Oui, elle est censée être responsable. Maintenant, ce que je dis souvent, et c'est pas que dans notre métier d'informatique, dans beaucoup de métiers, il y a surtout les métiers transverses, la comptabilité, les ressources humaines, etc. Il y a souvent des considérations très techniques je parle en termes de patrons de PME, eux, ils sont concentrés sur ce qu'ils savent faire, sur leur cœur de métier, et souvent, ils se rendent pas compte exactement des implications des choix qui sont faits, quoi. C'est pas une critique sur eux, mais c'est simplement une constatation, quoi. Des fois, les choix qui sont faits ont des conséquences techniques ou juridiques assez importantes sans que ça soit nécessairement évident au départ.
Oui, parce qu'on lit mal les contrats, parce qu'on s'est fait embobiner par un bon commercial.
Ou parce qu'on ne connaît pas très bien la loi, par exemple.
Ouais, aussi.
Voilà. Oui, mais c'est. Enfin, on en reparlera une autre fois dans le problème de sécurité informatique, mais la loi dite informatique et liberté rend quand même les chefs d'entreprise responsables de la sécurité de leurs données. Donc, amener toutes ces données chez M. Google, c'est pas toujours la meilleure idée.
Mais bon, ça se fait.
Monsieur Google, c'est ou beaucoup. Monsieur Yahoo, hein, c'est pareil.
Mais en fait, c'est fait sur tous les sites internet, de toute façon, de manière générale. Je connais pas actuellement d'entreprise qui ne fasse pas appel à un hébergeur. Un hébergeur pour un site internet, pour ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise qui, justement, stocke le ou les sites internet de l'entreprise chez eux et qui s'occupe de, le rendre disponible pour les internautes, en gros. Donc on est dans cette problématique-là. Mais toutes les entreprises qui ont un site, enfin toutes, je pense 95% ou 98% sans mouiller, font faire ça par un professionnel de l'hébergement, donc une entreprise qui ne fait que héberger. Et un site internet, typiquement, la base de données donc, est hébergée chez le prestataire, chez l'hébergeur. Et donc toutes les données relatives, enfin toutes, ou en, au moins une très grosse partie, des données relatives aux gens qui créent un compte, par exemple, sur le site internet, aux informations qui sont reliées, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a regardé comme page, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a publié comme commentaire, par exemple. Tout ça est stocké, de toute façon, chez l'hébergeur, donc en dehors de l'entreprise, donc entre guillemets, sans contrôle total possible.
Ouais, mais là, tu parles de boîtes style Amazon et compagnie qui vendent des choses sur le net. Enfin, moi, ma boîte, effectivement, le site internet est hébergé chez quelqu'un, mais tout le reste des données, il y a un gros... On veut un haut degré de sécurité dessus, donc tout est fait en interne, quoi. Du coup, on ne s'inscrit pas du tout dans le modèle dont on parle actuellement.
Vous hébergez pas... Parce que moi, je suis dans mon ancienne entreprise, tout était fait sur le... par internet. C'était même les informations de paye, de comptabilité, etc. Au lieu d'utiliser... effectivement, on peut utiliser un logiciel sur un PC qui ne sera pas du tout relié à Internet, etc. Mais je sais qu'il y a des entreprises, par exemple mon ancienne entreprise, qui faisait ça. Tout était fait sous des applications PHP, c'est-à-dire du Internet.
Alors, dans mon entreprise, moi, c'est tout. Tout, y compris la paye, c'est sur Internet. Mais c'est sur ce qu'on appelle un serveur dédié. C'est-à-dire que chez l'hébergeur, il y a un ordinateur qui est le nôtre. Et il n'y a que nous qui avons les codes d'accès pour accéder à la base de données, etc. Il y a plusieurs niveaux. Quand on a des données chez un hébergeur, par exemple les petits sites internet de petites sociétés de vente en ligne, etc., bon, ça va être ce qu'on appelle du mutualisé. C'est-à-dire que sur le même ordinateur, il va y avoir plusieurs sites internet. Donc là, il suffit de craquer l'ordinateur ou la base de données, puis c'est bon, on a accès à tout. Après, il y a un niveau supplémentaire, c'est on paye un peu plus cher, et puis on a un ordinateur dédié, alors plus ou moins costaud, etc. Et là, donc il y a un informaticien ou les informaticiens de l'hébergeur qui peuvent avoir les codes d'accès pour pouvoir leur démarrer quand même, parce que souvent c'est pas nécessairement juste à côté, mais disons les données sont quand même plus protégées. Par contre, dans le cloud, c'est qu'on ne sait vraiment pas où sont les données, quoi. Elles sont réparties sur je sais pas combien d'ordinateurs, et c'est là qu'on a des problèmes de sécurité dont on va parler après le petit break musical. Colin, peux-tu nous dire avant ce que tu vas nous passer?
Oui, non, pas de souci. Musique alors?
Musique, oui.
Musique.
Allez, c'est parti pour Bob's Not Dead, Rock'n'Roll Vespa.
Au milieu de ma piolaine, j'ai garé mon Vespa. Des traces de pneus, des traces de gnolles, et sous les roues, des traces de chats. Au milieu du saloon, hein, j'ai garé mon Vespa. Y'a un peu d'huile qui coule, mais je m'en fous, c'est comme ça. Je suis un sauvage, hein. J'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, hein, sans état à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Et quand je me prépare pour partir en virée, je sors mon blouson noir et ma ceinture cloutée. Sous mon casque une cagoule, sur la cagoule des lunettes noires. J'aime regarder la foule qui vit un vrai cauchemar. Je suis un sauvage, hein. J'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, hein, sans état à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Traverse mon village, hein, la poignée dans le coin. Klaxon et dérapage, hein, pour faire peur aux petits chiens. Je passe à fond de cale au milieu des gamins, pour que leur cœur s'emballe. Plus ils ont peur, plus c'est bien. Je suis un sauvage, hein, j'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, hein, sans état à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je suis toujours sur ma bécane. Mon étoile qui me protège et je file comme une sarbacane. Et si tout doit finir, je voudrais que ce soit sur mon scooter. À Saint-Pierre, je ferai subir mes grands coups d'accélérateur. Je suis un sauvage, hein, j'ai peur de rien, ni des nuages, ni d'écraser ton chien. Je suis un sauvage, hein, sans état à la main. Je fais un carnage quand je brûle le macadam.
Donc, premier lundi du mois, pardon, sur Radio Libertaire, nous reprenons la suite de Les Débogueurs du Système, l'émission du syndicat de l'industrie informatique. Colin la technique, Guillaume et Clément et moi-même Bernard derrière le micro. Donc, on avait abordé un petit peu le cloud, on parlait du cloud, on avait abordé le modèle économique. On va parler de sécurité, de confidentialité des données. Ça va nous permettre de repartir sur une deuxième partie du modèle économique, là où les gens se font de la thune avec les données des particuliers. Donc on y va un petit peu, là. Sécurité, confidentialité et puis exploitation des données personnelles.
Bah oui, parce que le gros avantage du cloud... on a parlé des avantages que peut y trouver celui qui l'utilise, quoi. Le fait d'avoir accès à ses données à distance, n'importe où, là où il se déplace, etc. Mais le gros avantage, le principal avantage, il est surtout pour celui qui fournit le cloud, pas pour celui qui l'utilise. Pourquoi ? Parce que celui qui fournit, il centralise beaucoup de données sur tous ceux qui utilisent son service. Et ces données, elles valent de l'or. Exemple, c'est ce que font beaucoup des sociétés comme Google ou comme Facebook actuellement. Facebook, typiquement, son modèle économique, c'est de la vente ou en tout cas de la mise en valeur, on va dire, de la donnée personnelle. Quand vous allez sur Facebook, si vous n'y allez pas souvent comme moi, vous allez peut-être être un peu perdu, mais en gros, vous avez toute la partie qui vous concerne, c'est-à-dire votre photo, votre nom, les commentaires hautement philosophiques que vous y aurez postés. Et puis, vous avez autour des petites publicités. Alors moi, je ne sais pas si c'est que moi, mais en tout cas, moi, c'est toujours les mêmes. C'est toujours une jolie fille dans ma région à rencontrer le site machin bidule.
Ah, alors... c'est parce que tu aimes les filles.
Oui, mais pourquoi ? Alors, pourquoi j'ai toujours... Si on allait sur le compte Facebook d'une femme, on aurait...
Est-ce qu'on aurait une photo de toi ?
Ah, peut-être. <C'est>... Normalement, il n'y a pas trop de photos de moi qui traînent sur Internet. Je fais attention, mais on va savoir. C'est un des problèmes de Facebook aussi, d'ailleurs. Mais comment Facebook fait pour proposer une publicité de rencontre coquine avec des filles à un garçon ? Ou de rencontre coquine avec des garçons à une fille, par exemple.
Déjà,
principe de base.
Sur ton compte Facebook, tu as dû faire comme moi, tu as dû déclarer que tu étais célibataire ou ne pas remplir la case vie en couple. Donc fatalement, on va essayer de nous refourguer. Moi, le blême, c'est que les jolies filles, moi à 60 ans, les jeunes filles, je suis un peu hors sujet, mais c'est vrai que c'est ça. C'est à partir du profil... Et ils échangent des données entre eux, ce que je disais hors micro tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un objectif pour mon appareil photo. Et depuis, sur Facebook aussi, j'ai des publicités pour des objectifs d'appareil photo ou sur Google. Or, la seule chose que j'ai fait des recherches sur Google. Donc d'une manière ou d'une autre, ils sont capables de se transmettre les données. Ils savent que le petit père Bernard, il est intéressé par la photo. Donc, on propose du matériel photo dans les publicités.
Oui, et finalement, en recoupant les données, on sait que tu t'appelles Bernard, tu as tel âge, tu vis dans telle ville, t'aimes la photo, et ceci, et cela, et truc. Et en gros, en recoupant un peu tout, on sait pratiquement tout de toi, tout ce que t'aimes, où tu vas, qui tu vois. Surtout quand on utilise des applications, moi, je les trouve vraiment effrayantes, ces applications de type iPhone, enfin... smartphone de manière générale, où on se géolocalise et puis on te dit alors voilà, vous êtes dans telle rue, et puis tu sais, tu peux poster sur Facebook machin était dans tel restaurant tel jour à telle heure. Alors, tout le monde trouve ça super fun. Ah ouais, j'étais à tel endroit à tel jour, super. Déjà, c'est vachement intéressant, et puis surtout, on peut te tracer vraiment où que tu sois, quoi que tu fasses, et ensuite on va t'indiquer, on va te. Ouais, t'orienter dans tes choix. Voilà, il y a tel magasin. Alors toi, t'aimes, je sais pas, la photo. Voilà, il y a tel magasin qui vend de la photographie dans telle rue où t'es en train de circuler. Tu pourrais peut-être aller voir.
Alors, justement, un des effets pervers du cloud, c'est encore d'amplifier encore tout ça, puisqu'on va stocker toutes les données Là, c'est même plus j'achète mes billets à la SNCF.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les exemples que vous avez cités, c'est un peu le niveau zéro. Quoi. J'ai fait un achat où j'ai déclaré quelque chose, mais en fait, ils enregistrent beaucoup plus d'informations.
Voilà, c'est ça. Bon, moi, Google sait que j'ai fait des recherches sur des marques d'appareils photo. Voilà, et puis tout est stocké. Bon, il y a des cookies ou des cookies à long terme, ce qu'ils appellent maintenant les cookies long terme, qui sont encore plus vicieux, mais quelque part dans nos mails, je reçois un mail de confirmation de la SNCF, il y a le lieu de mon il y a mon trajet, donc est-ce que si le mail est stocké chez X, Y ou Z, dans quelle mesure est-ce que ça n'est pas exploité, est-ce qu'on sait pas
c'est même dans toute mesure, c'est sûr que c'est exploité.
Non, je posais la question purement rhétorique.
je réponds.
Donc je dirais que c'est un peu une des dérives malsaines du cloud, c'est l'utilisation qui en est faite par ces gens. On va avoir du profilage, et ça c'est clair, net. On est profilé, on l'était déjà pas mal, mais là ça va aller encore plus loin.
D'ailleurs, c'est pas pour rien que Google pendant un temps a mis plus que des millions, je crois que c'était des milliards de dollars sur la table pour acheter Facebook, parce qu'ils savaient très bien que possédant, donc Google c'est un moteur de recherche le plus utilisé dans le monde, en France c'est 90% des recherches qui sont faites sur Google, Google c'est aussi un espace de stockage, donc Google Doc par exemple, qui permet de stocker des documents sur ses propres serveurs, c'est une messagerie en ligne, Gmail, c'est YouTube, parce que YouTube c'est Google, ça appartient à Google, et Picasa pour les photos. Imaginons que Google, en plus de tout ça, ce qui est déjà énorme, possède un Facebook, Google là c'est fini, il sait tout sur vous, c'est-à-dire il scanne les mails. Donc ça, c'est pas...
Il peut. On dit pas qu'il le fait. On dit il pourrait.
Il pourrait. Bon, en l'occurrence, ils le font tous, hein, parce que c'est pas un hasard si on a des publicités qui s'affichent dans nos boîtes email en fonction de ce qu'il y a décrit dans nos mails. Moi, j'ai déjà constaté souvent des choses comme ça où la publicité se met en connexion avec le contenu du mail. Donc, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un, une personne qui lit nos mails privés, mais il y a un robot qui scanne et qui dit, alors il y a tel mot, je sais pas, il y a chaussure trois fois dans ce message, bon bah c'est quelqu'un qui va être intéressé par l'achat de chaussures, paf, je lui colle une publicité pour telle marque de chaussures. Vous pouvez vérifier d'ailleurs, que ce soit sur Hotmail, sur Free ou sur Gmail, vous aurez tout le temps des publicités qui seront placées en fonction de vos affinités, c'est-à-dire en fonction de ce que vous aurez écrit dans vos mails. Et c'est pas du tout des coïncidences quand ça se produit. De même que c'est pas du tout des coïncidences, les publicités de Facebook, ça correspond vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure, votre profil. Suivant que vous êtes un homme, une femme, homo, hétéro, vous avez plutôt tel âge ou tel âge, que vous habitez dans telle ville, on va pas vous proposer les mêmes choses. Donc, à mon sens, en tout cas, il y a un vrai danger de ce système de centralisation et de récupération des données. Déjà, parce que actuellement, ça sert à quoi ? Ça sert à commercialiser. Commercialiser, c'est pas le terme que je cherche.
Ça monétise en fait tes données, quoi.
Ouais, ça monétise, mais du coup, ça booste, voilà, ce système de surconsommation et de capitalisme qui est acheter toujours des choses. Donc on en a pas assez. Il y a déjà des pubs partout dans le métro, la télé. On va encore essayer de vous refourguer des produits ou des services dont vous avez pas besoin sur internet en vous collant des pubs qui correspondent à votre profil. Et c'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'une pub dans le métro, parce que bon, la pub dans le métro, elle est là, elle s'adresse à tout le monde, et la cible, en quelque sorte, elle n'est pas précise. Alors que là, c'est très, très précis, on sait ce que vous avez déjà acheté, donc ce que vous êtes susceptible d'acheter, et on va vous tenter encore plus avec des produits ou des services.
Ouais, je précise que dans l'exemple que tu donnes sur les chaussures, le vendeur de chaussures qui a une publicité qui est affichée à côté de ton mail, il paye pour cette publicité, quoi. Et il paye d'autant plus cher que ton profil est ciblé, quoi. Et c'est ça vraiment la grande force des géants de l'internet dont on a parlé, c'est qu'ils fournissent une publicité qui est extrêmement précise et qui se vend donc beaucoup plus cher aux annonceurs. C'est ça le modèle.
C'est un énorme marché, quoi.
Sachant qu'au final, c'est nous qui payons.
Bien sûr, c'est toujours le donc client qui paye la publicité.
On paye le plaisir de fournir les données et de payer la pub qui est faite avec basée sur les données qu'on leur a fournies.
J'en profite pour dire au passage qu'on peut quand même vachement diminuer la publicité sur Internet en installant par exemple un module complémentaire pour votre navigateur tel que Adblock. A-D-B-L-O-C-K.
Pour Firefox, pour IE, pour tout.
Pour Firefox et pour Chrome, à ma connaissance. Enfin, c'est sûr. Pour IE, je ne sais pas.
Ça, c'est marrant que Chrome, qui appartient à Google, te propose un bloqueur de publicité, d'ailleurs, au passage.
C'est pas Google qui le propose, hein, c'est quelqu'un qui l'a développé. Oui.
Ils auraient pu l'interdire. Je crois qu'il y a un moment, ils ont hésité à le bloquer et finalement, ils ne l'ont pas fait.
Ouais, ça m'étonne
pas. Et l'Internet n'a rien à voir avec ou sans. Ma copine, par exemple, qui a l'habitude d'avoir toujours Adblock chez nous, dès qu'elle va sur le PC de quelqu'un d'autre, elle est étonnée du nombre de choses qu'on essaie de te rendre. Quoi. C'est vraiment insupportable.
Oui, sachant qu'il y a des sites qui ne vivent que des revenus publicitaires, que de même qu'il y a les journaux gratuits, par exemple, tout ce qui est, je sais pas, Direct Matin, les 20 minutes, etc., ne vivent que sur les revenus publicitaires. D'ailleurs, c'est devenu des plaquettes publicitaires plus qu'autre chose. Et les sites, enfin, certains sites en tout cas, vivent sur ce modèle économique. Ils vendent des espaces publicitaires qui leur rapportent 1000, par exemple, sachant que leur coût de fonctionnement, c'est 500, et du coup, ils se font une marge. Ils se font une marge là-dessus, donc c'est pas du tout négligeable et c'est vraiment un marché qui rapporte énormément à ceux qui l'utilisent.
Donc là, on vient de vous expliquer que dans le cloud, ben, y a un tas de données personnelles qui permettent de cibler les gens, de les profiler, etc. Et ces données, ben, sont stockées chez des particules, chez des entreprises. Et donc c'est dans le cloud. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces données sont sécurisées ? Alors théoriquement, oui. Les meilleurs experts, ils travaillent. Bon, je crois que vous avez tous plus ou moins entendu dire que de temps en temps, machin chouette, Facebook ou Gmail, etc., se sont fait piquer des mots de passe. Et le problème, il est relativement simple. Je disais tout à l'heure que bon, l'entreprise dans laquelle je travaille a son serveur à elle, donc c'est un ordinateur à elle qui est protégé par des mots de passe qui sont de bonne qualité puisque c'est moi qui les décide. Hein ? Et voilà. Donc si vous avez 5000 entreprises qui ont chacune un serveur, etc., que des gens mal intentionnés veulent récupérer des données, ils ont 5000 machines à attaquer. Si vous avez 5000 entreprises qui sont dans le cloud, il y a une seule machine à attaquer. C'est celle qui stocke tous les mots de passe et les points d'accès qui permettent de piloter le cloud. Donc il y a quand même un problème de sécurité dans la mesure où les gens qui veulent faire de l'argent ont une cible beaucoup plus étroite à attaquer. Et c'est pour ça que régulièrement, les grands prestataires se font pirater leur base de données de mots de passe.
Oui, c'est ce qui était arrivé à Sony, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a, quoi, 2 ans
Quelque chose comme ça.
Grosso modo, enfin bon, si je donne ça à la louche, je ne l'ai pas en tête. Mais Sony, donc sur son interface de jeux vidéo, donc c'est pareil, on a chaque joueur un compte, login, mot de passe, et paye en ligne pour acheter des jeux vidéo avec lesquels il peut jouer ensuite sur sa console à la maison. Sony s'était fait pirater, il y avait des dizaines et des dizaines, je ne sais même pas si c'était pas des centaines, voire plus d'informations de compte, donc y compris pour le coup des informations bancaires de carte bleue, qui avaient été mises à jour par des pirates. Et effectivement, il suffit de pirater juste un seul site, un seul lieu, pour avoir accès à toutes les données, c'est ce que tu disais, plutôt que d'avoir à se farcir 5000 sites un par un, ce qui est beaucoup plus fastidieux, et en général on ne s'embête pas à faire ce genre de choses, sauf si on est un hacker qui s'ennuie beaucoup dans son garage, ça arrive aussi. Mais
je suis pas au fait d'attaques qui ont réussi par exemple chez Facebook ou chez Google de masse, mais par contre c'est sûr qu'un jour ça arrivera. Enfin, c'est le même problème que les centrales nucléaires dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'elles sont tellement grosses que quand ça merde c'est très grave. Là ça sera pareil, quoi. Le jour où quelqu'un récupérera l'intégralité des mots de passe de Gmail,
ça s'est déjà produit, une partie des mots de passe de Gmail qui ont été mis dans la nature.
Alors, j'imagine que tu peux pas récupérer une partie d'un coup. Enfin, les mecs de chez Google sont pas stupides non plus, j'en connais. Ils vont faire leur possible, mais inéluctablement ça va merder. C'est le problème de la centralisation, quoi. C'est quand ça daube, ben, c'est plus grave que dans un système décentralisé.
C'est sûr que ça pose quand même des problèmes, mais bon, là on parlait du fait que c'était utilisé pour des raisons principalement économiques. Donc on peut dire, oui, le gros problème en ce moment, c'est qu'effectivement, si Google se fait pirater, ou Sony, ou tout ce qu'on veut, ou Facebook, il y a des gens qui peuvent avoir accès à mes photos privées, ou à mon compte bancaire, et me prendre de l'argent, etc. Donc ça, entre guillemets, c'est l'aspect réjouissant des choses. Imaginons la même chose dans un système politique de type totalitaire. Je sais pas, on peut imaginer un scénario à la George Orwell 1984. Voilà, il y a une entité, une personne ou un petit groupe de personnes qui prend le pouvoir et qui met la main sur Google ou sur Facebook ou les deux, et qui maintenant a accès à toutes les informations données en plus par les gens, d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de les torturer, il n'y a pas besoin de débarquer chez eux avec des militaires, etc. C'est eux-mêmes qui donnent toutes leurs infos, tranquillement. Voilà. On peut peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire. Alors, moi, on me répond toujours dans ces cas-là que je suis un pessimiste, que ça n'arrivera jamais, que ceci, cela. Alors, peut-être, et si c'est le cas, tant mieux. N'empêche que si ça arrivait un jour, et ça arrive déjà, hein, pas en France, mais ça arrive dans d'autres pays.
En Hongrie, par exemple. En Hongrie, par exemple, en ce moment.
En Hongrie, ou en Syrie, on pourrait parler. Ouais. Enfin, la Chine.
En Libye, je crois qu'il y a une société française qui s'est rendue célèbre, Amesis, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Là, et puis, pour ceux qui sont de ma génération, rappelez-vous, là, je parle des années 80, un système qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, je crois, Echelon.
Oui.
Moi, ça, je connais pas, j'avoue.
Bah, Echelon, c'est...
C'est le système de surveillance de l'armée française ?
Non, c'est le système américain. Donc, il y a des antennes dans pas mal d'endroits. Et bon, à l'époque, par exemple, ils captent un nombre invraisemblable de communications de téléphone portable. C'est stocké, c'est indexé d'après le contenu. Et puis, un jour, sur une recherche, ils ressortiront une vieille communication de téléphone portable. Echelon récupérait pas mal de mails, de choses comme ça. C'est le même principe que Amesis, mais ça date d'il y a 30 ans. Donc, il y a 30 ans, on faisait déjà ça. Dès le début d'Internet, on a commencé à fliquer.
Oui, et finalement, c'est bon. En allant très loin, en voyant le pire qui pourrait se produire. Si on retrouve une situation comme celle qui a été connue dans les années 40, par exemple, c'était ça finalement l'idée du fichage, que ce soit des juifs ou des homosexuels, c'était les détecter. La base c'était ça, fallait les détecter pour qu'ensuite on puisse les déporter, les exterminer, etc. À l'époque, on imagine bien que, enfin moi j'imagine en tout cas que ça devait être assez laborieux et assez galère de créer des fichiers papier sur des gens pour récupérer les infos. Ça devait pas être si facile, même bon, même s'il y a pas mal de gens qui ont donné leur petit coup de main comme on sait, mais là il y aurait même pas besoin de s'embêter à ça. Il y en a un qui prend le pouvoir, ce que je disais tout à l'heure, hop, il récupère un gros fichier, donc un gros tableur Excel avec toutes les infos, et puis moi, ceux que j'aime pas, bah, c'est tel et tel profil. Il n'y a plus qu'à faire un recoupement de données. Hop, j'ai tous les noms. Et en l'espace de 3 jours, ils sont tous arrêtés. Ça peut vraiment aller très loin. C'est très puissant, je pense, des outils Internet et des outils de ce qu'on appelle Big Data ou de regroupement de données massives. Et ça peut vraiment avoir des conséquences gravissimes selon les situations dans lesquelles une société peut se retrouver. Donc bon, là où on a de la chance, entre guillemets, actuellement, nous, d'être dans une société où l'utilisation des data n'est faite que pour doper un système de production, un système de croissance, qui est déjà suffisamment grave en soi, mais ça pourrait être bien plus grave que ça. Et sur cette note réjouissante, Colin va nous passer un autre morceau de musique.
Les dents quand je pense comme c'est percutant. On perd du temps, espère du vent, on se positionne à tort alors que la vérité crève l'écran. Mais dick dong, à la question d'où vient-on, je réponds Big Bang. Évolution, tous des frères de King Kong. Quiconque prétendrait le contraire serait fou. Tous des mammifères, mon frère, doté de raison, c'est tout. Ni Dieu ni maître. Je vois pas en quoi prier l'Immaculée pourrait t'apporter à part nous faire reculer. Nous basculer dans je ne sais quoi, se mettre à fabuler, ne plus miser sur soi mais croire en Dieu et l'aduler. Les derniers seront les premiers, c'est comme ça qu'ils nous font danser. Quand vous serez morts, je vous jure, vous serez récompensés. Mais Dieu, qu'est-ce qu'on en sait? Rien qui peut compenser le fait qu'il faut toujours croire sans voir et s'en contenter. Donc, en condensé, restons sensés. Pas question d'encenser l'insensé, non, non. En condensé, restons sensés. Il n'est pas question d'encenser l'insensé. Ni Dieu ni maître. S'éveiller devant l'affaire templier, mais c'est par milliers que les religions n'ont tué des gens qui avaient confiance en leurs croyances sans s'en méfier. Prêtre, imam, rabbin, gourou, où est la différence? Et la même influence, je prône la résistance car mes distances et me dispensent de tout endoctrinant qui voudrait diriger mon existence. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme, un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. La religion n'est autre que l'œuvre de l'homme, un instrument des riches pour asservir le peuple en somme. Ni Dieu ni maître. Ressemblent tous à des rois. Facile de prêcher la foi quand on pète dans la soie. Nous, c'est les dettes en fin de mois, la diète en fin de droit. Et ils se permettent de juger nos actes, mais enfin quoi? Qui sont d'abord ces vieux cons, dealers d'opinion, pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon Dieu de leurs millions? Une puissance politique qui se place à ses pions, aux visées prolifiques, leur dire je m'entorche le fion, qu'ils aillent tous faire maître. Ni Dieu ni maître, mon père né au berceau, je veux plus de paroi à ma fenêtre, j'ai dit qu'ils aillent tous faire maître. Ni Dieu ni maître, mon père né au berceau, je veux plus de paroi à ma fenêtre. Ni Dieu ni maître.
Voilà, on reprend l'émission. On vient d'avoir un coup de téléphone de Joël qui nous a fait une remarque fort pertinente. Je lui ai répondu. Hein. Je lui ai dit, on est trois informaticiens autour de la table, donc on est un petit peu polarisé par les ordinateurs et Internet. Mais c'est vrai que je parlais tout à l'heure de billets de train, etc. Il y a quand même des méthodes alternatives qui consistent à aller acheter ses billets de train soi-même. C'est difficile parce qu'ils suppriment des postes. Il y a aussi, on peut très bien acheter les livres chez le libraire du coin sans passer par Amazon, etc. Donc il faut qu'on pense aussi de temps en temps à éviter de donner le bâton pour se faire battre et pas laisser traîner trop de données dans la nature. Joël, merci de ta remarque parce que on était un peu centré sur notre utilisation journalière des ordinateurs.
Ouais, mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs entre autres avec Guillaume pendant que tu étais au téléphone, c'est que personne ne vous force à avoir un compte Facebook et un compte Gmail. Hein. Tu peux déjà t'en passer. Et tu peux, par exemple, héberger tes mails chez un ami qui aurait un serveur de mail qui peut faire chez lui. Après, la différence entre avoir tes mails chez Google ou chez un ami auquel tu fais confiance, c'est à qui tu places ta confiance. Quoi. Est-ce que tu la mets dans un pote qui peut être informaticien ou pas, ou tu la mets dans une grande entreprise privée. On a déjà parlé ici quand on avait invité Jean-Christophe de l'association Lorraine Data Network, donc c'est un fournisseur d'accès à Internet. Par exemple, Jean-Christophe fournit à moi, entre autres, un serveur de mail. Donc mes mails sont chez Jean-Christophe sur une machine que lui il héberge et qu'il administre. Et donc voilà, j'ai un compte Gmail pour des activités commerciales. Quand j'achète mes billets de train, ils vont sur l'adresse Gmail, mais toutes les communications personnelles sont sur cette adresse alternative. Donc c'est pas encore 1984.
C'est pas,
vous avez le choix.
C'est pas obligatoire. Ouais,
c'est pas ça, obligatoire.
On... Et même à la limite, on peut héberger soi-même si on a envie.
Voilà.
Sur un... Parce qu'un serveur, finalement, c'est quoi? C'est un ordinateur.
Comme le vôtre.
C'est, voilà. C'est juste que il est utilisé uniquement pour stocker et pour qu'on vienne récupérer chez lui des données. Mais au final, c'est un ordinateur. Donc on peut très bien héberger soi-même son site internet, héberger soi-même ses données. Et y avoir accès quand même à distance si on veut, à partir du moment où le serveur est relié à Internet. Donc on n'est pas contraint. Alors évidemment, il faut du coup se dépatouiller un minimum en informatique, il faut savoir qu'il faut cet ordinateur. Si on le veut disponible tout le temps, enfin si on veut les informations qu'il contient disponibles tout le temps, ça veut dire qu'on le laisse brancher 24/24. Donc bon, ça fait des frais d'électricité, ça a un impact sur votre facture EDF et sur l'environnement, bien sûr.
Par exemple, chez Jean-Christophe, l'hébergeur de mail, c'est un petit PC qui est un peu plus gros qu'une carte bancaire, quoi. Donc c'est un truc qui a une consommation très très basse pour répondre à ce problème. Et on est quelques utilisateurs à se reposer dessus toute l'année, quoi.
Ouais, c'est ça, donc c'est jamais fichu, quoi. On n'est pas condamné...
Pour le moment, non.
Enfin, pour le moment, oui, encore heureux. On n'est pas condamné à donner toutes ces informations et tous ces fichiers à des grosses sociétés. Mais de fait, beaucoup, beaucoup de gens le font de plus en plus et sans réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Et c'est plutôt là le danger. Je pense que c'est dès que les personnes le font de manière volontaire, en se disant « non, c'est bon, il n'y a pas de danger » ou « c'est ok », c'est là que forcément c'est le plus dangereux, parce qu'on se méfie pas et on donne tout. Et on comprend pas non plus comment ça se passe derrière. Me semble-t-il.
Et si on veut s'informer à ce propos, il y a des associations donc, qui luttent pour la liberté des données, de manière à ce que vous ayez un droit de supprimer vos données sur des serveurs distants, des droits de récupérer vos données dans un format qui vous convient pour les exporter autre part. Et je pense à des associations comme l'April, par exemple, APRIL.org, qui peut vous documenter sur ce sujet.
Il y a ça, et il y aura un autre aspect qui me tient à cœur, on va dire, c'est ce dont on discutait avec Clément hors micro à l'instant aussi, c'est la notion de besoin. Parce que finalement, le cloud, ou en tout cas le fait d'avoir accès à des données de n'importe où, créer des besoins qu'on n'avait pas avant et qui ne sont pas forcément des vrais besoins, qui sont plus des réflexes qu'on finit par adopter et dont on ne peut plus se passer, typiquement les smartphones dans le métro ou dans le bus. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a plein de gens qui en fait jouent à des jeux crétins, qui utilisent leur smartphone pour publier.
De valeur,
oui, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un jugement moral, donc
ouais,
c'est super
qui
compliqué.
Ils jouent à des jeux.
Peuvent être débiles. Tu peux jouer à un jeu
pas
débile.
Forcément.
C'est pas un problème.
Un jeu intelligent, admettons. Qui joue à des jeux intelligents.
Docteur Yamamoto.
Voilà, docteur machin qui cultive vos neurones, admettons, ou qui vont répondre sur leur messagerie, sur Facebook, sur qui vont faire leurs achats en ligne, etc. Mais finalement, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de pourquoi on utilise ça? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et est-ce que, quelque part, le jeu en vaut la chandelle? C'est-à-dire, est-ce que toutes les conséquences que ça engendre valent vraiment qu'on utilise ce genre d'outil? Est-ce qu'on ne peut pas simplement attendre, comme au bon vieux temps, d'être rentré à la maison ou au bureau pour poster son mail? Est-ce qu'on ne peut pas, effectivement, comme on disait tout à l'heure, aller dans sa petite librairie de quartier, commander son bouquin? Parce que d'ailleurs, en plus, il y a un prix unique du livre en France, je le rappelle, donc c'est pas plus cher chez son libraire que chez Amazon.
Non, c'est d'ailleurs bien ce qui leur a permis de survivre au libraire.
Oui. Heureusement qu'il y a cette loi de 1981 qui perdure, contrairement aux disquaires qui, eux, ont sombré. Enfin bref, petite parenthèse. Mais c'est vrai que, voilà, on n'a pas besoin ni d'aller faire ses courses sur Internet, ni d'aller acheter son bouquin sur Amazon. Il y a encore, heureusement, des commerçants... de quartier, on peut faire, je pense, 50 mètres de plus le soir et dire bonjour à son commerçant, qui aura peut-être une histoire intéressante à raconter ou pas d'ailleurs, mais pas toujours, mais à la limite c'est pas grave, mais c'est possible, on n'est pas forcément obligé d'être esclave de ces espèces de prothèses technologiques qu'on considère comme indispensables, alors qu'elles sont plutôt, la plupart du temps, gadgets dans leur utilisation en tout cas.
Tant qu'on parle des librairies, il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a un certain nombre de libraires qui se sont mis à prendre les commandes en ligne et on va aller chercher les commandes dans leur magasin. Et ça, c'est pas mal parce que tu vas chercher, t'as un bouquin que tu veux acheter, tu te le commandes et puis tu reçois un petit mail comme quoi ton bouquin est arrivé chez le libraire. En même temps, t'en profites pour te balader dans une vraie librairie avec des vrais rayons, avec des vrais bouquins que tu peux sur lesquels tu peux jeter un coup d'œil. Donc il y a des libraires qui ont fait l'effort de prendre la commande en ligne et il y en a plusieurs à Paris et certainement aussi en province, et ça permet donc d'acheter le bouquin, de faire vivre le libraire tout en limitant le dérangement d'aller chez le gars pour lui commander le bouquin, voir s'il l'a, etc. Et ça marche très très bien et je recommande fortement.
Oui, après tout n'est pas forcément négatif effectivement, mais il faut voir je pense qu'on peut pas ne pas réfléchir à quelles limites on donne à l'usage des outils qui peuvent exister et qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Comment on les utilise, comment on les utilise pas, pourquoi, comment. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une idéologie, une dynamique de ça existe, c'est possible.
Donc on va le faire.
Donc on le fait.
Ouais, mais je le cite presque à chaque émission, mais c'est toute la théorie développée par Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, par exemple. Mmh. C'est de dire que dans un monde technicien donc, qui est dominé par les inventions, si c'est possible, on va le faire. Et on se posera après coup la question de est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal, est-ce que ça change la société ou pas. Et le problème, c'est que quand tu mets une invention dans les mains des gens, tu ne peux jamais l'enlever. C'est-à-dire parce qu'on est dans une société qui n'est pas totalitaire. Donc, par exemple, là, on a diffusé l'Internet. Je ne juge pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que c'est impossible de revenir en arrière. Donc, c'est toujours... C'est un problème super compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un jugement moral et c'est quelque chose aussi qui change l'intégralité de la société. Donc, c'est vraiment une question inextricable, selon moi.
Bah, c'est pour ça que, selon moi, ça devrait passer par un vote, je ne sais pas, mais en tout cas, un débat citoyen, c'est-à-dire qui engage tous les citoyens, tous les membres d'une collectivité, d'une société, et qu'avant de mettre en marche quelque chose, on puisse réfléchir à se dire « Ok, alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce qu'il va apporter? Quels sont les dangers potentiels, etc. etc. ?» On en débat pendant 6 mois, pendant 2 ans, pendant 10 ans, s'il faut. Et puis, éventuellement, si tout le monde est d'accord et qu'on a bien pesé le pour et le contre, bon, on peut y aller. Alors évidemment, ça collera jamais avec la société dans laquelle on vit, où tout est vite pensé, vite consommé, vite mis en place, c'est clair.
Je voulais finir sur une note positive, mais...
Ah, j'ai du mal. Vas-y, finis.
On a du mal. Non, j'arriverai pas. Mais quand tu dis ça, oui, il faudrait poser un débat, tout ça, super, hein, je suis d'accord. Mais quand je vois qu'on n'a pas réussi à choisir sur le nucléaire, à dire non au nucléaire, tu vois, où il y a clairement un méga problème, super danger, et il n'y a ni eu débat, et même s'il y avait eu débat, je pense qu'on l'aurait pris quand même le nucléaire. Donc réfléchir à un usage des technologies, c'est
compliqué.
C'est impossible. Quoi.
La tonnerre, c'est le mode de société dans lequel on est qui fait que la priorité numéro un, c'est la rentabilité, le maximum de thunes pour un minimum de gens. Hein, et les gens qui sont au pouvoir, bon, ben c'est à l'époque du nucléaire, c'était les technocrates, c'était les gens qui avaient le pouvoir, qui avaient la thune, qui étaient décisionnaires. Bon, c'est un tout petit milieu, ils ont tous les mêmes intérêts. Bon, donc c'est le modèle de société qui fait que ces gens-là ont le pouvoir et donc il faut changer de société.
Oui, mais ils l'ont parce qu'on le laisse faire et c'est typiquement ça dans le cloud. On voilà. Donne nous-mêmes nos données,
ah oui,
on utilise
là,
les outils à la disposition.
Par contre, sans parler de changer de société, bon, on peut traîner les pattes un maximum pour le reste de ce qui est embêtant. Quoi.
Là, c'est un problème d'éducation aussi. Quoi. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à l'avance. C'est quoi les conséquences d'avoir un compte Gmail ou d'avoir un compte Facebook et de se poser la question des données. Et
Et c'est pas parce que c'est nouveau et parce que c'est moderne et parce que tout le monde l'a et que tout le monde en parle que c'est forcément bien. On a le droit aussi.
Ouais, mais tu sais, t'es un vieux con, Guillaume.
Mais je sais, mais moi je l'assume très bien. Alors attention, j'assume très bien d'être un vieux con. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Et
con, j'assume. Vieux, ça me gêne un peu. Bon, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question pour ce soir, Guillaume.
Ouais, je pense aussi. Oui. On a évoqué les grandes lignes, ce qu'on pouvait dire de bien et de mal. Alors c'est vrai qu'on a surtout dit du mal, je pense.
Voilà, mais je pense que l'important, c'est garder un peu la tête froide et puis de se dire, avant de se jeter sur la dernière version du dernier smartphone ou la dernière version du cloud ou du jeu, n'importe quoi.
Du logiciel, tout ce qu'on veut.
Prendre le temps de réfléchir un peu et de se poser des questions.
Ouais. Sachant que l'usage crée le besoin, quoi. C'est ce qu'on disait aussi hors micro tout à l'heure, c'est qu'une fois que tu as mis la main dans l'engrenage, c'est super compliqué de s'en passer.
Ouais, c'est ça. Juste un exemple pour finir, peut-être, bon, on a encore le temps. J'avais un ami avec qui je parlais de l'utilisation des smartphones à la maison, parce que lui, il utilise pour le boulot. Donc, sa boss lui envoie des mails, etc., pour le solliciter. Et il disait, ouais, mais moi, sans ça, sans le fait d'avoir accès à Internet, etc., à distance, je pourrais pas bosser correctement, il faut que je sois en contact avec les prestataires, avec la direction, etc. Et là, à cette réponse-là, moi je dis toujours, pareil dans l'optique vieux con, oui, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans, on n'avait pas ça, on n'avait même pas Internet, et les gens étaient globalement pas forcément, en tout cas, malheureux, en tout cas, ni plus ni moins qu'aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qu'il faut des fois arriver à relativiser, c'est des besoins, oui et non, c'est des besoins qu'on s'est créés, des habitudes qu'on s'est créées et dont on n'arrive pas à se détacher, on n'arrive pas à se dire je peux faire sans, la logique c'est j'arrive peu à faire sans, c'est impossible, mais en fait si, c'est un choix, c'est vraiment un choix de je peux faire sans ou je choisis de ne pas faire sans.
Bah, c'est un choix dans une certaine mesure, quoi. C'est comme l'automobile. Au début, ouais, dans les années 60, tu avais le choix de sûrement ne pas avoir d'automobile. Maintenant, dans certaines à la campagne, par exemple, tu n'as pas le choix parce que tout est super loin, il n'y a pas de transport en commun, etc. Donc,
Ah oui, bah c'est sûr que si tu vis à 15 bornes du premier... alors moi, je ne suis pas un fan des centres commerciaux, mais admettons que tu n'es pas de commerçant de quartier dans ton village, ce qui est le cas, par exemple, dans le village où j'ai vécu pendant des années et des années. Tu n'as pas de commerçant et le premier endroit où tu peux te fournir en denrées alimentaires, on va dire, c'est au minimum 6-7 kilomètres. Donc effectivement, t'as raison, c'est vrai que si t'as pas de voiture, bon, si tu vas me dire, si t'es jeune, machin, tu peux y aller en vélo, etc. Enfin bon, l'hiver quand il neige et quand tu commences à avoir un peu d'âge, c'est pas forcément la panacée. Mais voilà, du coup, tu te retrouves dans une situation où là, t'as plus le choix, effectivement. Et je pense que c'est ce qui va se passer avec les nouvelles technologies. On va arriver à un moment donné, peut-être, je sais pas si c'est dans 5 ans ou dans 30 ans, je sais pas, mais il y aura sans doute un moment où on pourra plus faire ça.
Voilà, et tu n'auras pas de refus individuel, ça sera... Je pense que dans le milieu professionnel, c'est déjà difficile d'avoir, de dire, moi, les mails après 18h, c'est fini, et le vendredi, ma semaine, elle s'arrête le vendredi, quoi.
Ouais.
Ça dépend des boîtes, hein. Dans la mienne, c'est le cas, par exemple, on n'est pas du tout harcelé, mais je pense que dans d'autres, nous, des boîtes qui sont dans des situations difficiles, dès qu'il y a du stress ou de la tension, ça doit retomber sur ces usages disproportionnés des technologies de communication.
Ouais, c'est ça. Et puis toi-même, des fois, tu te connectes à la maison parce que tu penses au boulot, tu dis « Ah oui, mais pour lundi, il faudrait peut-être faire ça, etc. » Et donc, le fait qu'il y ait l'outil,
crée l'usage.
Voilà. Ouais. Tu vas le faire, tu vas te connecter à la maison et tu vas travailler à la maison, et pour pas un rond en plus. Bon.
Bon, et ben...
Sur cette note joyeuse.
On a pas réussi.
Bah, donc c'était premier lundi du mois, l'émission Les Débogueurs du Système du Syndicat de l'Industrie Informatique.
Et vous pouvez retrouver notre site sur www.syndicat-informatique.fr.
Exactement. Et on vous dit au mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.
And stuff with cheap enjoyments. Some missy crowd of losers just dream to be consumers. Their willpower is gone, if they ever had some. That's what makes us angry and sometimes cheap and nasty. We burn the barricades and we fan the flames of discontent.
flames of discontent. We know there's a better life and we're ready for the strife, creating situations at our conditions. We're also reading books and ousting media crews. We want to be the rebels who scupper the kid with pebbles. We burn the fabric of concern and the flame.